les mots des religions. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour Haïm Korsia.
Bonjour.
Aujourd'hui, on a pris un mot merveilleux, c'est le mot cœur. Dans quel contexte le trouve-t-on dans la Torah ?
Partout.
Partout ?
Je suis même étonné en y pensant qu'on ne l'ait pas traité auparavant. Le Talmud dit la chose suivante. Qu'est-ce que demande la Bible ? Qu'est-ce que demande Dieu à l'homme ? Ça se dit en araméen. Et je veux le dire pour une fois en araméen, non
allez-y,
pas que les auditeurs
allez-y.
Soient particulièrement versés à la chose, mais parce que c'est beau. Rachamana liba bae. Ça veut dire la Torah demande que du cœur. Mais en même temps, le mot qui veut dire Torah, la loi, c'est-à-dire Dieu, se dit Rachamana qui veut dire la miséricorde. C'est comme si on disait la miséricorde de Dieu répond à un élan du cœur des hommes. Et c'est essentiel. D'autant que, vous savez que nous, il n'y a jamais de solution de continuité dans la lecture de la Bible. Jamais. On commence la Bible au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On finit le Pentateuch avec la mort de Moïse. Juste à la porte de la Terre Sainte, là, Moïse investit Josué, puis Moïse meurt. Bénit les enfants d'Israël et meurt. Mais le même jour, c'est la semaine dernière, on lit la fin de la lecture du Deutéronome, et immédiatement, on prend un nouveau rouleau et on redémarre avec « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Or, il se trouve, puisqu'il n'y a pas de solution de continuité, donc c'est vraiment la même chose, la dernière lettre de la Bible et la première lettre, quand vous les mettez côte à côte, dans ce sens-là, ça fait le mot « lève », qui veut dire en hébreu cœur. C'est comme si on disait que l'intégralité du message biblique s'adresse au cœur de l'homme. Au cœur de l'homme parce que le cœur dans la Bible est traditionnellement le siège de la décision.
De la décision.
Oui, parce que Dieu sonde les reins et les cœurs.
Voilà une expression où le mot cœur apparaît en effet.
Qu'on connaît. Alors pourquoi les reins ? C'est peut-être parce qu'il y a un élan. On donne un coup de rein. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on veut dans notre cœur et à un moment il faut donner un coup de rein pour transformer en acte nos velléités. Donc le cœur, c'est non pas exclusivement le siège de l'amour, c'est le siège de la décision. Et aimer Dieu, avec de tout son cœur, hein, ce qui est une phrase célèbre, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens. Eh bien, ça se fait aussi comme un acte de décision. Et donc évidemment, le mot cœur est essentiel dans la Bible parce que Dieu nous parle et nous, on doit, en entendant cette parole, agir en conséquence. C'est ce qu'on a dit au pied du mont Sinaï. Il ne faut jamais oublier que tous ceux qui font référence à la Bible, tous, le peuple juif évidemment, mais tous ceux qui se reconnaissent dans cette adhésion du message du Sinaï, on dit au pied du mont Sinaï, nous ferons et nous comprendrons. C'est donc dans l'action qu'à un moment, on s'engage à suivre la parole de Dieu. Et c'est ce que disait le grand rabbin Yehuda Lévi, qui a écrit ce livre extraordinaire qui s'appelle « Le Kuzari », c'est ce dialogue entre lui et le roi Khazar, qui a voulu se convertir, ainsi que tout son peuple au judaïsme. Et il lui fait dire la chose suivante, la spécificité du message sinaïque, c'est de conforter sa décision par une action. En fait, de transformer sa foi en acte. C'est vraiment
c'est
la spécificité. Le judaïsme est toujours relié à la loi. Mais la loi, elle s'accomplit parce qu'on décide de l'accomplir. Or, le siège de cette décision, c'est le cœur.
Ah oui, vous voyez, comme on apprend, parce que moi je pensais que c'était effectivement le siège du sentiment plutôt, le siège du
l'élan. Et alors vous auriez dit où la décision ? La décision, vous l'auriez mis dans le cerveau.
Oui, on l'aurait mis dans le cerveau. Enfin, c'est peut-être cartésien comme raisonnement, sans doute.
D'ailleurs, dans ce verset célèbre, Dieu sonde les reins et les cœurs. Pourquoi ? Parce que c'est là que se situe la décision. Dieu sait ce qu'on pense et Dieu sait ce qui nous motive. En fait, votre décision, elle n'est que le résultat d'une alchimie. Alors, les scientifiques vous disent d'une alchimie diverse et multiple. Et pour nous, elle est le résultat de ce qu'on appelle le libre-arbitre. Et le libre-arbitre, il se fait aussi en fonction des pulsions qui sont les nôtres. Et ces pulsions, c'est la tentation de faire le bien, ce qu'on appelle le bon penchant, et la tentation qui est la nôtre, qui est incarnée par le Satan de manière mythique, mais qui nous empêche de faire le bien. Donc vous avez, vous, une tentation de faire le bien, en face de vous, mais à l'intérieur de vous aussi, cette tentation de ne pas faire le bien, ou peut-être pire, quand vous faites le bien malgré tout, cette tentation de vous dire que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire parce que vous avez fait le bien.
Ouais, ce qui est une sorte pas de... si bien que ça.
Voilà. Donc en fait, l'orgueil va dénaturer le caractère extraordinaire d'un acte bon qu'on a posé. Il va le dénaturer, il va le déformer, le transformer, l'abîmer, l'ébrécher. Et Dieu, lui, scrute les reins et les cœurs. Il est capable de savoir pourquoi et comment on a fait quelque chose. Donc le siège de cette décision, c'est le cœur. Et en même temps, on le comprend bien parce que le cœur, c'est ce qui irrigue l'ensemble du corps. C'est-à-dire que sans cette décision, vos mains ne vous pilotent pas et vos pieds ne vous emmènent pas à faire ce que vous voulez. Votre cerveau ne pense pas sans cette décision, cet élan que le cœur donne et qui va à un moment être transformé en action. Donc le cœur est essentiel.
Alors il y a aussi une autre phrase, vous allez nous dire dans quel contexte on la trouve, c'est l'Éternel Dieu qui dit « Je vais changer vos cœurs de pierre en cœurs de chair ». Est-ce voilà. qu'il faut le comprendre aussi dans ce sens
Bien sûr, y a-t-il c'est dans le prophète Ézéchiel. Ça veut dire quoi? J'ai vu un rabbin qui m'a dit une fois quelque chose d'extraordinaire. Il se trouvait devant le mur occidental à Jérusalem et en s'éloignant, il m'a dit, tu vois, il est des murs de pierre qui nous parlent avec leur cœur et des hommes qui ont un cœur qui nous semblent être des murs de pierre. Et je trouvais que c'était très juste en écho à ce passage du prophète Ézéchiel. C'est-à-dire que avoir un cœur de pierre, c'est être insensible à la souffrance des autres.
Oui.
C'est-à-dire ne pas être touché, ne pas changer notre comportement devant la souffrance des autres. Et le prophète Ézéchiel nous annonce que Dieu nous rendra sensibles à la souffrance des autres de la même façon. Et vous le voyez dans l'Exode, c'est-à-dire au moment où Dieu veut faire sortir les Hébreux d'Égypte, le Pharaon, au début, hésite, et puis finalement, il ne veut pas. Et Dieu dit à Moïse, au moment de la quatrième ou la cinquième plaie, « Je vais endurcir le cœur de Pharaon. » Parce que ça aurait été trop simple que Pharaon, une fois qu'il a fait toutes les vilainies possibles au peuple, dise bah, « Très bien, partez, et puis on n'en parle plus. » Ce n'est pas comme ça. Dieu va endurcir son cœur de manière à ce qu'il aille au bout du bout de son inhumanité. Donc on voit bien que endurcir son cœur, c'est fermer ses yeux, son cœur, sa perception, toutes ses perceptions à la souffrance des autres. Et donc dans le prophète Ézéchiel, Dieu nous dit « Je vais vous permettre d'être de nouveau humain, donc de nouveau fraternel, en changeant vos cœurs de pierre, puisque vous vous fermez aux autres, en cœur de chair, et donc sensible aux autres. » Donc on voit bien que de toute manière, et ça qui est intéressant, l'aboutissement de l'espérance de Dieu pour les hommes, c'est qu'ils retrouvent la fraternité, c'est-à-dire qu'ils soient de nouveau dans un rapport humain de chair, c'est-à-dire de sensibilité les uns aux autres. Et si on se ferme les uns aux autres, on est dans une inhumanité, on est dans l'époque du déluge, que Dieu a éradiqué. Si par contre, on arrive à reconstruire une fraternité, une sensibilité, c'est-à-dire que la souffrance de l'un devient ma souffrance, ou comme aurait dit le rabbin Cook, un homme extraordinaire, le premier grand rabbin d'Israël, qui a dit la chose suivante, « Lorsque les besoins matériels de mon prochain deviendront mes exigences spirituelles, c'est-à-dire que j'aurai un cœur de chair, que je serai sensible à la détresse morale, psychique, matérielle des autres, à ce moment-là, c'est une humanité qui met Dieu en accord avec nous. » Voilà. Et donc, tout ça, c'est autour du cœur, c'est-à-dire de la capacité à aller vers l'autre, à être ouvert à l'autre, à ressentir ce que l'autre ressent.
Et effectivement, vous insistez toujours sur ce point, Aïm Corsia, c'est seulement quand les hommes auront retrouvé cette véritable humanité par la fraternité qu'ils pourront avoir une relation avec Dieu qui sera profonde et vraie.
Bien sûr, la qualité des liens qu'on a avec Dieu dépend exclusivement, mais je dis bien exclusivement, de la qualité des liens que nous aurons les uns envers les autres. Relisons le prophète Isaïe, qui clame de manière terrifiante pour nous, « Vos Shabbats me répulsent, vos fêtes, je les vomis, vos offrandes, je les repousse. » Parce qu'en fait, c'est la qualité du lien entre Dieu, ça, les offrandes, le Shabbat, etc., c'est entre les hommes et Dieu. Et c'est comme si ça exonérait les hommes de leur lien avec les autres. N'oublions pas que les tables de la loi ont deux tables, c'est les tables, il y en a deux. La première parle de tous les liens de l'homme avec Dieu. Je suis lié à ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, respecte le Shabbat, etc. Ne prononce pas mon nom en vain, ne respecte le Shabbat et honore ton père et ta mère. Même honore ton père et ta mère.
C'est dans la relation à Dieu.
Des hommes à Dieu.
Des hommes à Dieu.
Parce que c'est de cet ordre-là, il faut en avoir conscience. Et l'autre table, c'est ne tue pas, ne vole pas, etc. N'envie pas, etc. Et donc, un, les relations des hommes avec Dieu, et l'autre, les relations des hommes entre eux. Et c'est bien ça une religion, qui vient du mot religere, relier. C'est à la fois relier les hommes à Dieu, mais c'est surtout relier les hommes entre eux. Et c'est si on relie les hommes entre eux, à ce moment-là, qu'on ouvre une potentialité de relation avec Dieu, et pas l'inverse.
Merci Aïm Corsia de nous avoir éclairé sur ce point à partir du mot cœur. Et on vous retrouve dans la chronique régulière, les mots des religions. À
avec
bientôt.
Bon cœur.
De bon cœur.
Voilà.